Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez 4e de couverture sur Radio Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Alain Finkielkraut. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes philosophe, écrivain, professeur, essayiste, producteur de radio et académicien français, ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et titulaire d'une maîtrise de philosophie. Vous êtes l'auteur de nombreux essais sur la littérature, l'amour et la modernité. Professeur au lycée technique de Beauvais, puis assistant professeur à l'université Berkeley en Californie, vous enseignez à l'Institut universitaire privé Elie Wiesel à Paris et exercez comme professeur d'histoire des idées à l'École polytechnique de 1989 à 2014. Vous animez depuis 1985 l'émission Réplique sur France Culture et vous venez de publier Pêcheurs de perles chez Gallimard, dont nous allons parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Le titre de votre livre vient de Hannah Arendt, dites-vous, qui compare Walter Benjamin à un pêcheur de perles qui va au fond des mers pour en arracher le riche et l'étrange. Et vous vous plongez dans vos carnets de citations en tirant des recherches, des phrases qui vous font signe. Dans toutes les citations que vous conservez dans vos carnets, vous citez, je dis en vrac, Arendt, Kundera, Lévinas, mais aussi Valéry, Tocqueville, Nietzsche, Virginia Woolf. Vous avez, la première question, il y en a deux. Est-ce que ça vous a été difficile de les sélectionner et est-ce que ce sont les citations ou les sujets qui vous ont guidé d'abord?
Alors, disons que oui, la sélection est difficile parce que je note sur ces carnets, depuis plusieurs décennies, des phrases, des fragments, des maximes qui me frappent et même qui me foudroient. Donc, une sélection s'impose à moi. Je ne note pas n'importe quelle phrase, mais j'ai choisi celle qui me donnait le plus à penser. Celle que j'avais envie de suivre. Je voulais m'inscrire dans leur sillage. Et alors, bien sûr, j'ai retrouvé certains sujets qui m'étaient déjà familiers. On ne se refait pas. Par exemple, l'école, ou l'Europe, ou l'amour. Mais j'ai aussi, grâce à ce procédé, pu explorer des thèmes dans lesquels je ne m'étais jamais aventuré, comme la question de la mort et de la fin de vie, grâce à une citation absolument magnifique et pour le coup foudroyante de Canetti, « La mort est de Dieu et elle a dévoré son père ». Phrase admirable, donc. Et j'ai été ainsi délivré de la contrainte de bâtir une démonstration, de développer une thèse. J'ai pu aller dans plusieurs sens à la fois. Et c'était une forme, sinon heureuse, on n'est jamais tout à fait heureux quand on écrit, quand on cherche ces mots, mais au moins une forme libératrice.
Mais à chaque fois, vous parlez, vous commencez par la philosophie, vous prenez ce chapitre sur la mort, vous parlez de Bossuet, de Pascal, et vous finissez par une question de société. Dans ce chapitre, c'est l'euthanasie, et ça permet aux lecteurs que nous sommes, d'ailleurs, de réfléchir avec vous à partir de données. J'ai pas eu l'impression dans ce chapitre précisément que vous preniez complètement parti.
Non, mais de toute façon, je ne séparerai pas en l'occurrence ce qui relève de la philosophie et ce qui relève des questions de société. Si nous lisons Pascal, c'est pour la force de ce qu'il écrit, pour sa dimension existentielle. Pascal, c'est celui qui nous invite à regarder les choses en face, à sortir de ce qu'il appelle le divertissement. Et dans ce concept de divertissement, il englobe aussi bien les activités sérieuses que les jeux. On se divertit pour oublier la mort. Or, nous sommes mortels. Et c'est affreux d'être mortel, nous dit Pascal. C'est affreux. Voilà un homme qui ne se paye pas de mots. À la différence de Bossuet, il ne dit pas « De toute façon, nous avons la certitude, après la maison de Boude que nous habitons, qu'une autre maison nous attend dans l'au-delà, dans l'éternité. » Pascal dit « S'il ne fallait faire que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion, car elle n'est pas certaine. » C'est ça l'extraordinaire actualité de Pascal. Il nous dit, bon, c'est tellement affreux de mourir qu'il faut parier. Il faut parier sur autre chose. Mais moi, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas parier, à qui la proposition chrétienne ou la proposition religieuse en général ne parle pas, parce que je pense profondément que la mort a le dernier mot, mais c'est aussi pour cela que je lis Pascal. Et simplement, donc, mon athéisme n'a rien de triomphant. Je ne célèbre pas le règne de l'homme après le règne de Dieu. L'homme ne s'installe pas sur le trône laissé vacant. L'homme est orphelin de Dieu. Dieu s'éloigne et, comme le dit cette fois-ci, comment s'appelle-t-il, Gershom Scholem, là où il y avait Dieu, il y a maintenant la mélancolie. Voilà notre athéisme. Il y a une tristesse profonde de l'athéisme et cette angoisse que rien n'apaise et que rien n'épuise est aujourd'hui complétée, si je veux dire, par une autre angoisse liée au progrès. Nous vivons de plus en plus vieux, mais dans quel état ? Mais dans quel état ? La médecine répare tout dans un corps devenu appareil, elle ne répare pas le cerveau. Elle l'explore de mieux en mieux, mais elle ne le répare pas. D'où l'abondance des maladies neurodégénératives. Et c'est cette peur-là qui m'habite, et d'autres, avec d'autres, c'est-à-dire angoisse de la fin de la vie et angoisse de la fin de vie. Peur de mourir trop tard, ajoutée à la peur de mourir trop tôt. Parce que, et là je citerai Svani, quand la femme Lula a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, une femme qu'il adorait, il parle, Svani, de l'immense chagrin de se savoir en état de destruction mentale. L'immense chagrin éprouvé par le malade lui-même, pas seulement par ses proches. On se leurre en croyant que quand on a cette maladie, on perd conscience de tout dans une espèce de débétude béate. Ce n'est pas vrai. C'est un long parcours, un long processus vers la léthargie finale. Et ça, le malade le ressent. Et c'est terrible. Donc je me dis, oui, comme la médecine ne peut pas m'aider à vivre quand elle fait ce diagnostic, elle doit m'aider à mourir. Mais je ne prends pas pour autant parti dans le débat actuel sur l'euthanasie ou le suicide assisté, puisque précisément les maladies qui m'obsèdent ne sont pas prises en compte dans cette proposition de loi. Simplement, je m'interroge sur les angoisses existentielles de notre temps.
Là où vous n'êtes pas pessimiste du tout, Alain Finkielkraut, c'est sur l'amour, où vous dites que vous n'avez jamais rien lu sur ce type d'amour, le vôtre, que vous éprouvez dans la durée et qui est un chemin de connaissance. Et vous parlez de Jean Kelevitch et en citant Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre de l'autre sans hésitation. C'est ce que vous avouez, c'est une déclaration d'amour que vous faites à votre femme, comme une emprise dont on parle tant aujourd'hui, mais une aliénation qui est une bénédiction sur ce temps long. Et on va écouter Thibaut de Montalembert lire le début de votre livre sur ce sujet.
Un dimanche matin au petit déjeuner, celle qui allait devenir ma femme m'annonça que c'était fini, qu'elle me quittait et que sa décision était irrévocable. La veille, nous nous étions disputés, ou plus exactement accrochés, à propos du film « Le choix de Sophie ». Elle avait dit son enthousiasme pour la performance de Meryl Streep. Je lui avais rétorqué qu'en effet, celle-ci jouait très bien, que son incarnation de la femme forcée par un officier SS de choisir lequel de ses deux enfants allait survivre était magnifique, mais qu'au lieu de demander à une grande actrice hollywoodienne d'imiter, à s'y méprendre, l'accent polonais, il eût été opportun de confier le rôle à une comédienne polonaise. Je n'étais pas assez bête pour dénoncer ce qu'on n'appelait pas encore l'appropriation culturelle. Je n'étais certes pas choqué qu'un hétérosexuel joue le rôle d'un homosexuel atteint du sida, mais je pensais que, les pays d'Europe centrale vivant alors sous la botte soviétique, la solidarité imposait de mettre en lumière leurs artistes, quand bien même ceux-ci pourraient constituer un handicap commercial. Cet argument avait sa légitimité, mais il ne méritait pas que je monte sur mes grands chevaux et que je croie bon d'afficher ma sensibilité supérieure au malheur du monde. Nous en restâmes là, et le lendemain, le verdict tomba. Cette scène n'aurait pas pu, à elle seule, provoquer la rupture. Mais c'était la goutte d'eau. Depuis quelque temps déjà, notre amour avait perdu sa magique innocence. Nous n'en étions plus à nous émerveiller mutuellement. L'euphorie se dissipait, la légèreté avait du plomb dans l'aile. L'insouciance des commencements cédait la place à la tension et même à l'exaspération. Jalouse de son indépendance, habituée à un certain quant à soi, celle que j'aimais me trouvait de plus en plus envahissant, et elle avait raison.
Merci beaucoup, d'autant plus que j'appartiens à une génération d'entrée de jeu désenchantée. Le romantisme est derrière nous. Nous abordions, et cela continue avec les générations qui nous ont succédé, l'amour avec une certaine méfiance. Certes, « je t'aime » n'est pas un constat, « je t'aime » est une promesse, « je t'aime » est un serment. Mais quand on le dit, on ne pense pas « je t'aime, donc je t'aimerai pour toujours ». La désillusion est inaugurale. On se dit « ça durera ce que ça durera ». Mais l'intensité et la durée ne sont pas conciliables. Et je raconte effectivement l'histoire d'une désillusion perdue, à l'inverse de ce qu'est le roman d'apprentissage. Les illusions perdues, l'éducation sentimentale, non. Des illusions perdues, ça arrive, la lucidité peut rimer, coïncider avec l'enchantement. La lucidité n'est pas toujours désenchantée et je veux faire apparaître une dimension de l'amour curieusement négligée dans la littérature, c'est-à-dire l'admiration. Une admiration qui est évidemment plus forte que toute espèce de lassitude. Voilà pourquoi je dis oui, l'amour dans sa modalité la plus haute est un chemin de connaissance. Donc je parle de moi, mais ne vous méprenez pas. Ce n'est certes pas pour me donner en exemple. C'est pour tracer un cheminement qui existe et dont on ne tient peut-être pas assez compte.
Alors, Finkielkraut, on va écouter McCartney, Penny Lane.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back.
Alain Finkielkraut, pêcheur de perles chez Gallimard, vous avez beaucoup de chapitres, tous plus intéressants les uns que les autres, on ne va pas tout révéler. Là, je voulais vous parler du chapitre sur l'identité, que l'on ne peut se distinguer de ce que l'on est, dit Hannah Arendt, et vous rappeler votre livre que vous aviez écrit, Le Juif imaginaire, avec l'idée que vous jouiez un rôle, celui du descendant de la Shoah, qui n'avait pas d'inconvénient à l'époque. Au contraire, on pouvait ressentir de la fierté. Et puis, aujourd'hui, à nouveau, être juif est devenu un adjectif négatif. L'antisémitisme est devenu dans le bon camp, je vous cite. Quand pensez-vous que cela a changé? Je parle du 7 octobre, mais néanmoins, voilà. Qu'est-ce que vous qualifiez cela de haine vertueuse? Vous prenez pour exemple Robert Linhart, où il révèle à un ouvrier dans l'usine avec lequel il travaille qu'il est juif, et celui-ci lui répond « ce n'est pas possible », je cite, « tu es bien et juif, ça veut dire quand on n'est pas bien ». Voilà, je voulais vous demander vos réflexions sur le sujet, et si vous croyez encore à la solution de deux États. Mais c'est deux questions distinctes.
Deux questions distinctes. Oui, si vous voulez, moi je suis né à l'ombre d'Auschwitz, si je puis dire, protégé par Auschwitz, et en même temps, le fait d'être juif me donnait, arrachait ma vie à la banalité. J'avais l'impression d'avoir un destin supérieur parce que j'étais juif. Donc, il y avait dans ma judaïté une part de cabotinage. Je me prévalais d'une persécution qui m'était, par le souvenir tout récent de la Shoah, épargnée. J'ai changé, notamment en écrivant Le Juif imaginaire, mais j'ai pris acte du fait qu'un nouvel antisémitisme surgissait, inculpabilisable, décomplexé, parce qu'il n'était plus raciste, il parlait la langue immaculée de l'antiracisme. Ça remonte assez loin. Dès les années 70, l'ONU, dans une résolution, a assimilé le sionisme à une forme de racisme. Cette résolution a été annulée. Il n'empêche, voilà, sionisme, racisme. Et aujourd'hui, malgré le 7 octobre, les choses ont empiré. Israël est accusé de mener une guerre génocidaire. Donc, sionisme égale nazisme. Et l'antisémitisme, rien ne lui fait honte. Cet antisémitisme, puisqu'il s'adosse au plus jamais ça pour harceler les Juifs et leur dire « c'est vous qui recommencez, c'est vous, c'est vous, vous Israël, mais vous tous ceux, parmi vous tous ceux qui soutiennent Israël ». Alors cet antisémitisme n'étant pas raciste, les Juifs ont toujours la possibilité de se détacher d'Israël, de se joindre au cœur, de se joindre à la meute. Mais s'ils ne le font pas, alors, gare à eux. Et la situation est évidemment extrêmement grave aujourd'hui. Une haine vertueuse accuse le sionisme de tous les maux. Et d'un autre côté, nous devons garder les yeux ouverts sur ce qui se passe. Et donc, si nous sommes en désaccord avec certains aspects de la politique israélienne, nous devons pouvoir le dire, et je le dis, et justement, quand je vois au gouvernement des gens comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, je ne suis pas seulement en colère, parce que l'extériorité ne m'est pas permise. J'ai honte, je suis concerné, et je suis même compromis par leur extrémisme, compromis par cette idée que comme aucune vie n'est possible avec les Palestiniens, il faut les chasser tous, et de Gaza et de Cisjordanie, compromis par une politique de colonisation éperdue en Judée et Samarie, je me dis ce n'est pas possible et j'en veux beaucoup au Premier ministre de rester allié, hein, contre vents et marées avec ces gens. Mais donc, il me faut, si vous voulez, être présent sur deux fronts. Ne rien concéder à cet antisémitisme virulent et répandu dans l'élite. Ce n'est pas un antisémitisme venu du peuple. C'est un antisémitisme universitaire. Ne rien lui concéder, donc, et en même temps, garder les yeux ouverts sur ce qui se passe en Israël.
Oui, vous questionnez aussi l'Europe, qui, avec Kundera, et vous êtes assez pessimiste sur la culture. Vous dites, après la sortie de la religion, vous préconisez la sortie de la culture.
Non, qui... je la préconise pas. Elle m'inquiète. Je la vois venir.
Vous la voyez venir, mais qui va aussi avec ce sujet d'antisémitisme où on a l'impression qu'il y a un problème de lecture de l'histoire.
Bien sûr. Non, Kundera, dans un texte extraordinaire, publié en novembre 1983, Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale, écrit notamment que l'unité de l'Europe a reposé longtemps sur ma religion. À l'aube des temps modernes, Dieu s'est retiré et c'est dans la culture, les valeurs de la culture, que l'Europe s'est reconnue et s'est définie, s'est identifiée. Et il dit, la religion donc cédait la place à l'aube des temps modernes et maintenant la culture cède la place. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que l'Europe est une construction qui ne pense que à travers le marché et le droit, mais sa civilisation même lui importe peu. Et donc, et en plus, ce qui est très grave, c'est que la culture cède la place à quelque chose qui porte le même nom, à savoir le culturel. Ça, c'est lié au progrès de la démocratie. Non pas la démocratie en tant que régime, toujours fragile, mais la démocratie en tant que processus merveilleusement décrit par Tocqueville, hein, le développement continu de l'égalité des conditions. Tout devient égal. Aucune hiérarchie n'est permise. Aucune distinction non plus. Or, la culture ne vit que de hiérarchie et de distinction. Tout est culturel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est donc l'Europe qui s'oublie elle-même. Et elle est conduite aujourd'hui à se renier avec ce nouveau phénomène idéologique dont je parle également, qui est le wokisme, l'éveil. Voilà, les Occidentaux se pensent éveillés parce qu'ils sont sensibles à toutes les discriminations. La dernière en date étant, vous l'avez sans doute noté, la discrimination capillaire. Mais les autres époques n'ont pas, justement, le même éveil. Elles sont toutes un peu endormies quelque part. Quand elles ne sont pas homophobes, elles sont sexistes. Quand elles ne sont pas sexistes, elles sont racistes. Et la plupart du temps, elles sont les trois. Donc le passé n'est pas là comme un recours, mais comme une espèce de repoussoir. Le présent ouvert à toutes les minorités, en fait, se renferme sur lui-même. Et on le voit avec le théâtre, le grand théâtre européen. Bien, les pièces maintenant sont convoquées, non pour ce qu'elles nous enseignent, mais pour que les metteurs en scène leur fassent la leçon. Dernière mise en scène d'Hamlet, je crois que c'est à l'Odéon, Hamlet est une femme. Hamlet est une femme et Hamlet de Shakespeare devient une dénonciation du patriarcat. Donc c'est notre présent, fier de n'avoir plus aucune œillère, qui justement convoque les œuvres, les redresse, les corrige. C'est vrai à l'université, c'est vrai dans l'enseignement, et c'est une manière, si vous voulez, de détruire, de tuer l'humanisme européen. L'humanisme, c'était ce détour par les signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture pour accéder à soi-même et au monde. Et on nous dit aujourd'hui que ce détour n'est plus nécessaire. Et c'est un coup mortel porté à l'esprit européen.
À la Finkielkraut, on va écouter Françoise Hardy et Jacques Dutron, puisque vous partez en voyage.
Bah, il la remercie de l'avoir accompagnée là-bas.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ses journaux, ses cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages.
fini au d'usage. J'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cage. Pour nous attendre.
Alain Finkielkraut, pêcheur de perles chez Gallimard. On arrive vers la fin de l'émission et vous vous montrez extrêmement sévère, excessivement sévère envers vous-même, page 173, comme si vous vouliez éviter tout travail à votre biographe à venir. Vous prenez comme exemple Nathan Zuckerman dans Exit le fantôme, qui était un auteur oublié et son biographe ne rappelle son existence que par un scandale de sa vie privée. Et vous parlez de la biographie de Philip Roth sur, par Blake Bailey, qui lui-même a été retiré de la vente car l'auteur était accusé d'agression sexuelle. Voilà, et voilà, j'ai eu l'impression, dans ces quelques lignes, où vous aviez pris les devants de votre biographe à venir, voilà, avec réellement une sévérité absolue à votre égard.
Non, pas du tout. Je ne sais pas si j'aurais un biographe. Je ne sais pas si j'ai une vie tellement intéressante pour un biographe. Je ne sais pas si je mérite un biographe. Mais j'ai été très frappé, en effet, par la lecture d'Exit le fantôme, où Nathan Zuckerman, un peu l'alter ego de Philip Roth, rencontre un homme qui veut faire la biographie de son auteur favori, Lonoff, qui est mort. Et cet homme... ce jeune écrivain impétueux, eh bien, il dit « Moi, je connais, je sais quelque chose de la vie de Lonoff. Il a eu une relation incestueuse avec sa demi-sœur. » Et Nathan Zuckerman est furieux et il lui dit « Finalement, ce qui t'intéresse, ça c'est extraordinaire, c'est non pas le génie du génie, mais le secret du génie. Voilà. » Et les biographes, souvent, ils ne cherchent pas le génie du génie, mais le secret du génie parce que il y a quelque chose dans le génie, en effet, qui fait mal. Et là, nous retrouvons la démocratie, ce sentiment égalitaire. On s'incline devant la supériorité, mais en même temps, on veut faire payer au génie leur supériorité. Et c'est à cela que servent la plupart du temps les biographes. Voilà. On vous fait une biographie de Saul Bellow. On montre que c'était un homme infâme, pas très gentil, etc. Et ça vaut pour tout le monde. Bertolt Brecht avait très mauvaise haleine. Et voilà. Et donc, c'est cette volonté, ce ressentiment à l'œuvre dans nos démocraties qui m'inquiète. Et c'est justement à quoi sert l'œuvre de Nietzsche, nous guérir du ressentiment pour savoir admirer et pour savoir accueillir la supériorité. Ne pas rabaisser nécessairement ceux qui sont coudés au-dessus de nous. Mais je ne me compte pas du tout parmi les êtres supérieurs. Je ne suis pas Philip Roth. Voilà, c'est tout ce que... c'est mon message final.
Bon, vous finissez votre livre par une citation de Oderlin, « Il y a tant à défendre, il faut être fidèle ». Et il n'y a pas de chapitre qui va après... comme si voilà, vous êtes fidèle à vos croyances et la citation se suffit à elle-même.
Oui, elle se suffit à elle-même. Elle montre d'ailleurs un grand changement. Ce que montre très bien Léo Strauss, c'est que nous avons vécu longtemps dans le paradigme préjugé-liberté. C'était la modernité elle-même. Il y a un autre paradigme, plus ancien, une autre opposition, c'est fidélité-rébellion. Et tout d'un coup, nous redécouvrons, nous qui pensions combattre tous les préjugés, nous redécouvrons, ou nous devrions redécouvrir, les vertus de la fidélité dans un monde qui va à volo. Et je terminerai sur une ultime citation de Walter Benjamin, La catastrophe, c'est lorsque les choses suivent leur cours.
Merci beaucoup, Alain Finkielkraut, pêcheur de perles chez Gallimard. Précipitez-vous. Merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.